Bonsoir. La Cour de Compte accuse plusieurs personnalités, dont Déogratias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE, des détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Jimmy Munganga, premier président de la Cour de Compte, l'a révélé lundi 23 octobre sur les plateaux de la RTNC. Ces accusations font suite aux résultats de l'audit mené en 2021 par l'inspection générale des finances sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Ces enquêtes couvrait la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020, a précisé Jimmy Munganga. Cependant, l'Observatoire de la dépense publique, tout en se félicitant de la volonté exprimée par la Cour de compte de lutter contre la délinquance financière, l'ODEP souhaiterait rappeler que cette lutte devait se faire en respect des attributions des différents organes de contrôle dont elle fait partie et selon la procédure requise. Pour ce faire, l'ODEP recommande vivement, outre la procédure déjà entreprise auprès de la Cour de compte, que la justice pénale, c'est-à-dire le parquet, soit saisie en vue de déployer des actions appropriées. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 25 octobre 2023. Participe au débat Maître Guy Kabeya, membre du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, au dépense sigle. Maître Guy Kabeya, bonsoir.
Bonsoir madame.
Avec moi dans ce studio, Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO en sigle. Il est aussi le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Ernest Mpararo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Passy Zapamba, député national, membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale, vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Passy Zapamba, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à Radio Capi et bonsoir à tous les co-débatteurs.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ils sont mis en cause dans les détournements de plus de 25 millions de dollars américains. Déogratias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ancien président du conseil d'administration de la GECAMINE et consort, interdit de quitter le territoire national. Une requête dans ce sens est remise à la DGM par la Cour de compte. Il s'agit en effet des résultats de l'enquête menée par l'inspection générale des finances dans la gestion de la Banque centrale du Congo qui mettent en cause ses personnalités. Ces résultats parlent de fraude des gestions ayant occasionné des détournements de cette somme. Jimmy Munganga, premier président de la Cour de compte, l'a révélé lundi 23 octobre sur le plateau du journal télévisé de la chaîne nationale. Suivez un extrait de sa déclaration dans ses propos recueillis par Pelleki Pelamondo.
L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'Inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de l'organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Déogratias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur. Des personnalités de la Banque Centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogratias Mutombo, gouverneur de la Banque Centrale du Congo au moment des faits. Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits. Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMINE au moment des faits. Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Peya, tous deux directeurs à la Banque Centrale du Congo au moment des faits. Et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits.
C'était là Jimmy Munganga, premier président de la Cour de compte, Maître Guy Kabeya. Vous êtes, je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Alors, instruisons sur un dossier des présumés détournements de 25 millions de dollars à la GECAMINE. La Cour de compte a écrit à la Direction générale des migrations pour interdire la sortie du pays des personnes impliquées dans ce dossier. C'est notamment l'ancien PCA de la GECAMINE, Albert Yuma, aussi Jacques Kamenga, qui était déjà intérimaire de la GECAMINE, le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogratias Mutombo. En sus de l'interdiction de quitter le pays, la Cour de compte a ordonné le gel des avoirs de ces personnes au niveau des banques commerciales jusqu'à nouvel ordre en attendant la fin de l'instruction du dossier. Quelle analyse ou quelle est votre lecture par rapport à cette démarche de la Cour de compte?
Merci beaucoup, madame. D'abord, je vais profiter pour saluer les auditeurs, vous-même et puis mon ami Ernest et l'honorable aussi. Justement, comme vous avez remarqué, juste pour rappel, l'ODEP est parmi les structures de la société civile qui a milité pour que la Cour de compte soit opérationnelle. Rappelez que ça fait, depuis que les magistrats étaient nommés presque plus de 10 ans, ils n'avaient jamais fait respecter vraiment. Donc l'ODEP s'est battu sur base avec les plaidoyers là où il fallait pour que cela soit fait. Maintenant, pour revenir à la question, c'est un dossier très important. Si vous avez remarqué, l'ODEP a réagi uniquement à la communication qui était faite par le premier président de la Cour des comptes dans la presse. Donc, on n'a pas vu la lettre qui était envoyée. On n'a pas non plus vu la lettre ni envoyée à la DGM, ni aux banques, ni même éventuellement à toute autre autorité. On s'est fié à ce que le premier président a déclaré à la presse. Et si vous écoutez très bien ce que le premier président a déclaré, il dit qu'il enjoignait aux banques de faire des prendre des actions, même à la DGM. Vous savez, c'est lorsqu'on lutte contre
Maître Guy Kabeya, on a des petits soucis avec sa ligne. Est-ce que vous nous entendez, Maître Guy Kabeya? On nous a perdu. Oui, vous avez la parole.
Oui, juste là. Alors, je disais que lorsqu'on lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, le respect des procédures, comme on dit, le respect de l'état de droit, donc les règles établies, ce respect-là est très important. Ça crédibilise même la lutte. C'est ainsi que l'ODEP a réagi, en fait, non seulement à rappeler les compétences, d'ailleurs, l'article invoqué par la Cour de compte, l'article 39, l'organique de la Cour de compte, si vous le lisez, cette attribution n'est pas prévue pour la Cour de compte. La Cour de compte ne peut pas donner ordre à quelqu'un mais proposer des mesures précises. Et les instances compétentes qu'on a rappelées dans le communiqué sont là pour éventuellement prendre des mesures coercitives, s'il le faut. Vous savez, c'est ça, hein, c'est une aide, n'est-ce pas, au contrôle, une aide au contrôle, une aide éclairée au contrôle que l'ODEP a fait. Voilà.
Alors, l'ODEP recommande, outre la procédure déjà entreprise près la Cour des comptes, que la justice pénale soit saisie en vue de déployer des actions appropriées.
Oui, justement, parce que dans le communiqué, même dans la communication, on parle de détournement présumé. Donc quand il y a détournement, c'est pénal. Donc ce n'est pas seulement une faute de gestion. Donc si c'est pénal présumé, évidemment, je rappelle quand même que les concernés ont la présomption d'innocence, ils jouissent de la présomption d'innocence. Si réellement il y a des soupçons de détournement, il faut saisir le parquet pénal, donc voilà, le quel que soit par rapport à s'il y a des problèmes de juridiction ou quoi, moi je ne peux pas rentrer dans le détail, les juristes savent de quoi je parle, mais que le parquet compétent soit saisi, que les enquêtes vraiment précises pourraient déboucher sur des procès éventuellement ou des classements sans suite, mais au moins que cela soit fait dans les normes pour éviter qu'après on parce que vous savez, on a eu beaucoup de cas dans ce pays, on a fait beaucoup de bruit et après il y en a qui ont été ou acquittés ou il n'y a pas eu de suite, souvent parce que certaines règles n'étaient pas respectées. C'est ça que l'ODEP a voulu rappeler.
Et donc vous, pour l'ODEP, la procédure n'a pas été respectée par la Cour de compte. Elle ne devait pas rejoindre notamment les banques et même la DGM d'interdire toute sortie à ces personnalités citées dans ce dossier.
Je ne dis pas que la mesure sous le fond n'est pas fondée. Donc demander, mais est-ce que c'est la Cour de compte, l'article que la Cour de compte évoque, l'article 39, ne dit pas que la Cour peut le faire. C'est ce que j'ai dit. Donc d'autres instances peuvent le faire. Alors si on considère que les concernés, il y aurait ce risque-là, dans ce cas-là, il faut que l'instance compétente, mais pas la Cour de compte. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est quoi?
Et c'est quoi l'instance compétente?
Bon, moi, je ne peux pas aller. Là, c'est une question plus technique, hein, celui qui va voir, donc il peut voir ça. Mais moi, je rappelle seulement que la Cour de compte, non pas moi, mais l'ODEP, rappelle que la Cour de compte doit faire son travail conformément à ces textes. C'est dans son intérêt, et même pour sa crédibilité. Voilà.
Alors, Ernest Ampararo, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué de l'ODEP qui estime que la Cour de compte n'a pas respecté la procédure, voilà?
Effectivement, madame, comme mon collègue venait de le dire, nous sommes du même avis, étant donné que on ne peut pas s'élever parce que tu as une parcelle du pouvoir et tu violes la loi. Que dit l'article 39?
Vous pouvez nous lire l'article?
Effectivement. L'article 39 de la loi portant création, organisation de la Cour des comptes dit ceci. La Cour des comptes est habilitée à proposer à l'autorité hiérarchique et à l'autorité de tutelle de prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées à l'occasion de ces contrôles, à l'occasion des contrôles de la Cour des comptes. Et ces mesures sont la proposition de suspension, la Cour propose de suspendre, ou la proposition de destitution de ses fonctions. La Cour propose le blocage des comptes bancaires, la Cour propose l'interdiction de sortir du territoire national. Vous voyez, ça c'est l'article 39. Maintenant, sur le cas concret, est-ce que la Cour a fait d'abord le contrôle? Non. Elle se base sur les rapports de l'inspection générale des finances.
Je pense que M. De Gracias Mutombo avait été entendu par la Cour de compte.
Être entendu et faire le contrôle, c'est deux choses différentes.
Sûrement qu'ils ont envoyé des inspecteurs, il y a eu des contrôles.
Je ne pense pas, parce que la Cour des comptes a entendu l'ancien gouverneur. La Cour des comptes l'a entendu sur base des rapports de l'inspection générale des finances. Cela veut dire que la Cour des comptes n'a pas fait les contrôles comme l'exige l'article 39. Ça, c'est un. Deuxième, se basant sur les rapports de la Cour des comptes, le premier président n'a pas compétence d'enjoindre la DGM. D'ailleurs, nous, en tant que LICOCO, nous demandons à la DGM de ne pas respecter ces ordres-là, parce que ce sont des ordres illégaux. Or, la Constitution nous dit qu'on ne peut pas respecter un ordre illégal. C'est ça. Donc, troisièmement, nous demandons aussi comment est-ce que la Cour va demander le gel d'une personne privée, qui n'est même pas agent de l'État. Donc, il n'y a aucune loi qui le dit. L'article 39 ne concerne que ceux qui gèrent les agents de l'État, que ce soit les agents politiques, les agents administratifs ou les agents qui ont un contrat avec l'État.
Ça peut être des sociétés. Vous faites allusion à qui?
Je fais allusion, par exemple, aux sociétés privées qui exécutent les travaux de l'État. Là, oui. Mais un agent de la banque, de Rabobank, il ne gère rien. Il n'a pris aucun argent. Vous allez l'interdire des études sur quelle base? C'est sur quelle base? C'est comme ça que je suis d'accord avec les recommandations de l'ODEP pour dire que le premier président est allé plus loin. Il a surpassé ses pouvoirs. la loi ne lui donne pas ce pouvoir-là. Et nous, en tant que Likoko, nous demandons, que ce soit à la DGM, que ce soit aux banques commerciales, de ne pas respecter cet ordre-là, qui est un ordre illégal. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Il doit prendre les dossiers, l'envoie comme l'ODEP le propose, l'envoie devant les cours et tribunaux. À ce moment-là, les cours et tribunaux peuvent trancher sans problème.
Mais c'est peut-être pour éviter que ces gens ne puissent quitter le territoire. Le temps d'ouvrir les dossiers au cours des tribunaux.
Ce n'est pas ça ce qui dit la loi.
Ces personnes impliquées, ils sont encore présumées, bien sûr, peuvent toujours quitter le territoire.
Comme Guy l'a dit, la lutte contre la corruption, c'est le respect des règles et des lois. Lorsque vous ne respectez pas, ce n'est plus la lutte contre la corruption. Vous faites maintenant quelque chose qui est illégal. Or, la loi qui organise la Cour des comptes, l'article 39, ne donne pas ces compétences-là. Parce que les compétences sont d'attribution. Or, lorsqu'on ne vous attribue pas, comment vous-même vous allez vous attribuer ces compétences-là? Et c'est ce que dit le juriste, c'est ce que dit Kabeya pour dire, écoutez, la Cour des comptes n'a pas ces compétences-là. Même si les faits reprochés, ce sont des faits vrais, mais le fait que vous avez déjà abusé sur la procédure, on ne va même pas voir les fonds. Déjà, ça abuse. Ce que nous demandons, nous demandons à ce que le premier président retire d'abord son communiqué. Deuxièmement, s'il a le dossier qui a déjà été contrôlé, investigué par un autre organe de contrôle, qui est l'IGF, qu'on puisse seulement prendre une lettre et ils envoient devant les cours et tribunaux. Et les personnes qui sont citées vont répondre. Il n'y a pas de souci pour ça.
Patrice Apamba, la Cour a abusé sur la procédure à suivre. Votre réaction, j'appelle, vous êtes député national, membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale, mais aussi vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC.
Madame, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez encore d'intervenir sur les antennes de Radio Okapi. Je crois que le sujet qui est abordé aujourd'hui est crucial et intéresse l'ensemble de Congolais. Parce qu'il s'agit bien de détournement. Et ce qui est plus grave dans notre pays, lorsqu'on parle de présumé détournement, il ne s'agit pas de 1000 dollars, il ne s'agit pas de 10 000 dollars, mais c'est toujours en termes de millions. Alors que nous avons besoin tout simplement de 1 million de dollars pour financer les cantonnages manuels de la route qui part de Bukangalonzo jusqu'à Tembo. On manque 1 million, mais des citoyens se permettent de détourner. Même si c'est pas encore conclu, on parle de présumé détournement de 25 millions. Vous savez que lorsque l'eau bouge quelque part, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui doit avoir perturbé la quiétude. Revenant donc sur le sujet du jour, je risque de me rallier à mes deux co-débatteurs qui ont déjà pris la parole en ce qui concerne la procédure. Parce que je ne suis pas juriste, mais le juriste veille bien essentiellement sur les textes et sur la procédure. Vous savez, beaucoup de procès dans notre pays n'ont pas abouti tout simplement à cause du non-respect de la procédure. Et si on regarde cet article 39, comme l'a dit notre ami de Likoko, la Cour des comptes est habilitée à proposer à l'autorité hiérarchique ou à l'autorité de tutelle de prendre des mesures conservatoire. On ne dit pas que la Cour des comptes prend l'initiative. Elle ne peut que proposer à l'hiérarchie, à l'autorité hiérarchique ou à l'autorité de tutelle. Et donc, dans ce cadre précis, vous comprenez que quand il s'agit de la GECAMINE est classée parmi les entreprises publiques. Vous connaissez donc l'hiérarchie et vous connaissez l'autorité de tutelle. Donc, sur ce plan-là, c'est vrai que la Cour des comptes est allée au-delà de son autorité. D'ailleurs, si vous poursuivez la lecture de cet article plus loin, on vous dira que l'autorité saisie doit, dans les 5 jours francs de la saisine, communiquer à la Cour des comptes les suites données à ses propositions. Vous comprenez que
c'est l'autorité saisie en principe qui doit réagir. Et c'est cette autorité en principe qui doit rendre compte à la Cour des comptes. Et si cela n'est pas opérationnel, plus loin on dit que le premier président de la Cour des comptes signale au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au premier ministre, au président de l'Assemblée provinciale, au gouverneur et tous ceux qui sont concernés au cas où les propositions faites par la Cour n'ont pas été exécutées. Donc, dans ces cas précis, on aurait dû laisser l'autorité hiérarchique ou l'autorité des tutelles agir dans le sens de propositions faites par la Cour des comptes. Qu'à cela ne tienne. Mais ce qui est important aujourd'hui pour les réseaux des parlementaires de lutte contre la corruption, c'est un autre cas de présumé détournement. Vous voyez jusqu'à quel point, malgré les efforts qui sont fournis par l'inspection générale des finances, malgré les efforts aussi qu'entreprend cette même Cour des comptes, on n'arrête pas de détourner. Nous devons nous poser donc la question que le président de la République a levé l'option. Et il y a même une publicité de l'inspection générale des finances qui dit que le président de la République n'accordera, et le peuple congolais n'accorderont aucun pardon aux détourneurs. Ce qui signifie que si on doit respecter la procédure pour que ceux-ci soient entendus par les services compétents et pour qu'on puisse soit le condamner et soit le juger coupable pour qu'un jour dans ce pays, qu'on se réjouisse quand même que notre justice prend quand même de l'élan, que notre justice commence à aider la République, que notre justice se met sur les pas de la volonté du président de la République qui s'est engagé à en découdre une fois pour toutes avec les antivaleurs dans notre pays. Et donc, pour l'instant, madame, nous disons que la Cour des comptes est allée au-delà de ses limites, de ses pouvoirs, et donc nous pensons que il n'est pas trop tard pour mieux faire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de saisir l'autorité hiérarchique, de revoir l'autorité des tutelles pour que cette dernière puisse agir dans le sens de la loi et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faciliter la poursuite de la procédure. 25 millions. Et si je me référais à ce qui peut l'être, ça vous fait 20 kilomètres de route asphaltée dans la ville de Kinshasa. Vous vous imaginez que si on asphaltait 20 kilomètres de route à Kinshasa, vous allez imaginer combien on va réduire les embouteillages, comment on va faciliter la fluidité dans la ville de Kinshasa. Et donc, la procédure doit être refaite et que ceux qui sont présumés soient entendus et que ces 25 millions soit retourné dans le compte du Trésor.
Alors, honorable Pascisa Pamba, puisque nous analysons cette communication de la Cour de comptes, beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent se posent quand même la question de savoir pourquoi cette précipitation de la Cour de comptes de faire cette communication alors que le dossier est en instruction et encore en cours, et puis le faire à la chaîne nationale ou à la télévision nationale.
Ok, on peut commettre des erreurs. Si c'est une erreur, la Cour sait quelles sont les motivations qui l'ont poussé à agir dans ce sens-là. Mais le plus important pour nous Congolais aujourd'hui, il est révélé encore à la face du monde, à la face du public. Les Congolais savent que 25 de leurs millions ont été détournés. Et bien que ce soit encore une présomption, et donc, nous voulons maintenant que la justice, en dépit de tout ce qui peut entourer, parce que c'est toujours autour de la procédure que le peuple congolais n'est jamais entré dans ce droit. Cette fois-ci, précipitation ou pas, la Cour de compte doit se ressaisir pour rentrer dans la procédure. C'est ça qui est le plus important. Et tout ce qu'on annonce dans notre pays n'aboutit pas. Tout ce qu'on annonce ne permet pas aux Congolais de se réjouir parce que la justice dort sur l'oreiller. Mais j'ai toujours suivi aussi certains cas qu'on évoque ou qu'on a évoqué par le passé. Aussitôt qu'on a dénoncé, la cour ou le parquet s'est saisi du dossier. C'est aussi le cas maintenant, parce qu'il y a une dénonciation, que les parquets se saisissent du dossier, au lieu de traîner dans les tergiversations de la Cour de compte, eh bien, que les parquets se saisissent du dossier, qu'on instruise assez rapidement, parce que les Congolais aimeraient voir où sont partis ces 25 millions, et peut-être qu'on puisse rapidement les retourner dans le compte du Trésor, pour que le peuple congolais puisse se retrouver, et que le fauteur de troubles, tous ceux qui sont des récalcitrants, tous ceux qui continuent encore avec la délinquance financière, puissent être remis. Vous savez, il faut qu'on arrive un jour à éradiquer l'impunité dans ce pays. Il faut quand même un jour qu'on puisse sanctionner. Il faut quand même un jour que la justice nous dise que non, ce cas-là est flagrant. Nous l'avons jugé, nous les avons enquêté et nous avons abouti à des preuves, à des éléments probants et qui permettent aujourd'hui à ce que l'on mette la main sur tous ces délinquants et qu'on puisse quand même faire plaisir, ne fût-ce que cette fois-là, au peuple congolais. Que le peuple congolais se sente que sa justice devient distributive, sa justice devient équitable et qu'on peut compter sur cette justice pour redresser notre pays.
Ernest Mpararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCON sigle, et aussi point focal en RDC de l'ONG Transparency International, est-ce important de faire cette communication sur la chaîne nationale?
Bon, moi personnellement, je pense que ce n'était pas opportun, étant donné que, la communication était bâclée. Peut-être on voulait justifier les dépassements que la Cour a faits dans la reddition des comptes de 2022 pour montrer au chef de l'État que la Cour des comptes travaille. Mais nous, en tant que l'ICOCO, avec d'autres organisations de société civile, nous pensons que depuis que les magistrats de la Cour ont prêté serment jusqu'à aujourd'hui, on devrait voir la Cour sur le terrain. Il y a des problèmes, il y a des contrats, il y a le projet 03 à Kinshasa. Est-ce qu'on a vu la Cour des comptes? Non. Il y a des problèmes de Covid. Ils ont produit un rapport. Quelle a été la suite de ce rapport de la Cour des comptes elle-même? Non. Ils ont fait des dépassements dans les rapports de reddition des comptes. La Cour elle-même a fait des dépassements. Est-ce que la Cour s'est jugée plutôt? Non. La Cour des comptes a beaucoup. Il devrait même aller sur le terrain pour voir si les cellules de gestion des passations des marchés, est-ce que ces cellules fonctionnent? Est-ce que ces cellules font passer des marchés en province? Elle ne l'a jamais fait. Alors qu'ils ont eu des moyens qui sont supérieurs à leur budget qu'ils ont eu en 2022. Alors, nous pensons que, en tant que l'ICOCO, nous avions lutté pour que les magistrats prêtent serment, mais sincèrement, la Cour des comptes, le premier président, devrait avoir un sentiment de ne rien faire. Il n'a pas aidé le chef de l'État. Il est là seulement pour montrer, et il a pris un dossier qui a été traité par un autre organe de contrôle, qui est l'IGF.
Il ne peut pas le faire.
Il devrait le faire, mais ce n'était pas ça ses compétences. Il devrait prendre le dossier et l'amener devant les cours, comme c'est que l'honorable venait de le dire. Il devrait prendre ce dossier-là. Il dit, ok, l'inspection a déjà fait, je transmets ça devant les cours et tribunaux, et les cours vont appeler. Mais le fait d'interdire en violant elle-même la loi, quelle est la crédibilité du premier président aujourd'hui? La crédibilité est zéro. Parce que les gens ne croient plus. Parce qu'elle-même viole. Elle-même a fait des dépassements. Elle-même n'est pas capable d'aller contrôler les bourgmestres, d'aller contrôler les gouverneurs, d'aller contrôler les ministres, les chefs de division. Tout le monde, la Cour est incapable actuellement. Alors qu'ils ont réussi des moyens et des moyens. C'est ça le grand problème que nous avons. On vous donne une parcelle de pouvoir. Vous n'utilisez pas votre parcelle de pouvoir, mais vous violez la loi pour se faire montrer. Moi, je pense que c'était une sortie de marketing pour tromper les chefs de l'État que la Cour travaille, alors que la Cour ne fout absolument rien.
Mais vous ne pouvez pas dire que la Cour ne travaille pas, monsieur Ernest Mpararo.
Nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo. Nous, je vous donne seulement un seul cas, le projet Zéro Trou à Kinshasa. Quel est le résultat? Est-ce que la Cour s'est déjà donné la mission d'aller même demander ils ont réhabilité combien de kilomètres? Ça coûtait combien? Est-ce qu'ils ont déjà, même pour recueillir les informations, ils sont en train de se pavaner à Kinshasa dans leur bureau climatisé, alors que nous, nous roulons sur des trous, sur la ville de Kinshasa. Il y a l'assainissement, il y a la ville, un problème actuellement, un problème de gestion pour la ville de Kinshasa. Est-ce que la Cour s'est déjà donné l'amabilité d'aller voir qu'est-ce qui se passe à la ville? C'est ça le grand problème. Nous ne parlons pas peut-être à l'intérieur, ils vont nous dire non, nous n'avons pas de moyens. Mais ici, à Kinshasa, il y a la saleté, l'électricité difficile. Les gens, les gens qui prennent les transports, aujourd'hui, transports dans des difficultés malgré beaucoup de millions que le gouvernement a injectés. Est-ce que la Cour s'est déjà intéressée à ce secteur-là? Non. Donc, nous pensons que le premier président, vraiment, il doit se réveiller. Il a beaucoup de pouvoir. Et il devrait aider énormément. Il devrait aider énormément les chefs de l'État dans la lutte contre la corruption. Mais malheureusement, nous constatons que le premier président ne l'aide pas.
Alors, Maître Guy Kabéa, membre du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, parce que vous dénoncez la procédure de la Cour de compte, tout ça dans ce débat, hein, que ce soit Ernest Ompararo ou même le député Patrice Pamba, tous sont d'accord que la procédure n'a pas été respectée. Dans ce cas, qu'est-ce qui doit se passer après? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que la Cour devrait faire? Revenir sur sa communication?
Il est parti.
Monsieur Guy Kabéa, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends, madame, je vous entends, je vous entends.
Oui.
Alors, je disais ceci, en fait, déjà, j'aimerais bien faire un bémol sur les activités de la Cour de compte. Non, on ne peut pas dire que la Cour de compte n'était rien. Ce serait assez poussé comme appréciation. N'oubliez pas que la Cour de compte, ça fait un moment qu'elle est régulière dans la production, n'est-ce pas, des rapports des résultats de compte. N'est-ce pas, aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucun budget ne passe sans qu'il n'y ait eu un rapport de la Cour de compte, un arrêt de la Cour de compte, une arrêtation de compte. D'ailleurs, l'ODEP travaille, fait des rapports sur ces rapports-là. En tout cas, l'ODEP dénonce les dépassements budgétaires auprès de certaines institutions, c'est aussi grâce au rapport de la Cour de compte. Donc déjà, au rapport de la réduction de compte. Ça, c'est un. Deux, et nous suivons les activités de la Cour de compte. Nous savons, par exemple, que maintenant, la Cour de compte est en pleine audience, est en train de poursuivre les gestionnaires en faute de gestion. Là, il y a des audiences qui se passent à la Cour de compte, au cours desquelles les mandataires publics sont interpellés pour faute de gestion, qui en fait débouche vers des sanctions financières. Par exemple, un certain nombre de mois de salaire ou de rémunération à saisir ou à retirer. Donc, il y a quand même des choses qui se font. La Cour de compte fait son travail, peut-être c'est une fête passée. Là, c'est vrai que mon ami Ernest Souma, il connaît mieux que lui, là, sur le terrain. Il aurait souhaité que ce soit mieux ou plus, mais on ne peut pas dire que la Cour de compte ne fait rien. Ça, c'est un. Cela étant dit, maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Parce que c'est ça qui est intéressant. L'ODEP a proposé que la Cour de compte, compte tenu du fait que ce sont des infractions, à part le fait que c'est possible que ce soit des fautes de gestion, qui sont des incompétences. Si ce sont des infractions là, dans ce cas-là, il faut saisir les cours de tribunaux. Et l'article 17 de la loi organique sur la Cour de compte donne la procédure. C'est au parquet, d'ailleurs, il est dit, le parquet, donc le procureur général, en cas de besoin, peut communiquer avec les autorités administratives et judiciaires par note du parquet. Donc, lorsque le parquet, que la Cour de compte constate que, au-delà de la partie faute de gestion, on peut actionner l'action, l'action publique en termes de poursuite pénale, le procureur peut, n'est-ce pas, il y a des relais de communication. Ça, c'est un. Et deux, vous savez, tous ces contrôles sont complémentaires. Il ne faut pas exclure un contrôle. Et n'oubliez pas aussi que la Cour de compte, c'est aussi surtout un bras du Parlement. Hein, je parle d'ailleurs sur le contrôle du contrôle de l'honorable.
Du député.
C'est vrai que le député absolument d'honorable, c'est bien toujours d'aller au-delà, n'est-ce pas? Et ce qu'il a dit est très important. savez, chez nous, à cause du show médiatique, à cause de l'immédiateté médiatique, on oublie d'aller au fond. Ailleurs, quand on fait une enquête sur la corruption, compte tenu de la sensibilité, c'est tellement secret. Il y a même des possibilités de faire ce qu'on appelle des infiltrations. On fait même infiltrer les gens dans certains réseaux mafieux. Hein, parce que quand on parle de ce type de montant, je n'ai pas dit que le montant a été détourné. Mais si le montant est vrai, mais il ne faut pas en parler avec, il ne faut pas faire le show. Il faut être précis, il faut être, la fameuse phrase, pièce contre pièce. Ce n'est pas de la blague. N'oubliez pas qu'il y a la réputation des gens qui sont, qui est en jeu. Donc ceux qui sont impliqués, il y a la réputation, ils ont des familles, il y a aussi l'État qui est impliqué. L'honorable a parlé de ce qu'on aurait pu faire éventuellement avec cet argent-là. Donc tout ça, il faut contrebalancer pour qu'il y ait un due process, qu'il y ait une procédure régulière conforme à la loi. Je répète, ce qu'on aurait dû faire, c'est que le parquet, après la Cour des comptes, constatant qu'il y a des infractions éventuelles des faits pour lesquels il était saisi, peut, par notre communication, j'espère, saisir le parquet compétent pour avancer. N'oubliez pas que le parquet compétent peut prendre ce type de mesures. Même la mesure interdisant le voyage. Le parquet, n'est-ce pas, je dirais judiciaire, peut prendre cette mesure-là. N'est-ce pas? Un, deux, s'il y a une décision de justice qui est prise, n'est-ce pas, et que le détournement est constaté et confirmé, n'est-ce pas, si quelqu'un est condamné, après il faut réaliser. Parce que sinon on pense que quand on est condamné pour détournement, on va seulement en prison. Non, il faut en plus réparer, saisir les comptes de manière conservatoire, c'est pour éventuellement provisionner le montant qu'il faut récupérer. Mais pour ça, il faut être une procédure de récupération qui ne peut être que judiciaire. C'est ça, en fait, qu'il faut mettre en balance.
Merci.
Ça, je voulais quand même que... Voilà.
Merci, Guy Kabé. On va lire quelques réactions des internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de Radio Okapi. On est fort, Sakana. Bonsoir, je salue la communication de la Cour des comptes, bien que jugée précipitée par certains. Par contre, nous n'attendons rien de cette juridiction parce que tous ceux qui ont détourné les millions de dollars sont soit récompensés par des postes ministériels ou autre, et soit il va librement alors qu'on s'attendait qu'il soit déboulonné comme avait promis le chef de l'État. Léonard Capessa, des personnes qui interviennent dans cette émission sont censées lutter contre la corruption, s'évertuent à s'attarder sur des procédures en lieu et place d'encourager l'acte posé par le premier président de la Cour de comptes. Merci à Edison Kisuba qui nous suit depuis Kaina au nord Kibou, à docteur Dani Rengue depuis Bukavu au sud Kivu. Vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Kapi. Alors on va ouvrir notre standard pour prendre aussi ces auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Bukavu au sud Kivu pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Maître Guy Kabea.
Jado Igilima, à partir de Bukavu, province du Sud Kivu. Il est triste de constater au jour le jour des mises en accusation des millions de dollars pendant que le peuple sombre dans une misère indescriptible. C'est pourquoi, comme un citoyen lambda, un questionnement me vient à l'esprit. C'est depuis quand la Cour des comptes est opérationnelle dans notre pays? Depuis qu'elle existe, combien de mises en accusation ont-elles abouti? Soit à la condamnation ou soit encore au remboursement des sommes faisant l'objet d'accusations. Que la Cour des comptes nous éclaire en quoi toutes ces accusations n'ont rien à voir avec des acharnements politiques dans cette période sensible marquée par des agitations politiques de part et d'autre des camps politiques.
Alors, j'aurais bien voulu que la Cour de comptes réponde à cet auditeur de Bukavu, Jado Ingilima. Malheureusement, nous avons tout fait, hein. Nous avons tenté de les avoir dans cette émission. Alors, sans succès. Maître Guy Kabea, comment vous pouvez répondre à cet auditeur?
Bon, vous avez compris que je... Madame, merci. Madame Abad Koulekouedou, absenti. Alors, je disais seulement... Bon, je ne suis pas porte-parole de la Cour de comptes, hein, vous l'aurez remarqué. Mais je pense que dans ma réponse précédente... J'ai rappelé que la Cour des comptes a quand même travaillé et travaille encore, n'est-ce pas? Et quant à la date, je crois que c'est à la Cour des comptes de répondre quand est-ce qu'elle a, elle a commencé, quand est-ce qu'elle a commencé, ce qu'elle a pu faire en détail. Mais je pense qu'elle est, elle est utile, pas, elle est vraiment utile, et ce serait bien que la Cour des comptes réponde à la question. Voilà.
Merci à Onespoir qui nous suit depuis Paris en France. On va prendre ce deuxième auditeur, Patrick Bouly, qui nous appelle depuis Colwezi.
C'est Patrick Bouly Kassama depuis Colwezi dans la province du Lualaba. Nous saluons les efforts de l'IGF qui a pratiquement remplacé certaines institutions de contrôle comme le Parlement qui est aujourd'hui comme une caisse de résonance. Et la question que je me pose est celle de savoir pourquoi la Cour des comptes fait cette révélation après plus de 3 ans à la veille des élections? Quelle intention ou intérêt de publier ces rapports fracassants aujourd'hui? Et plusieurs organes, dont ODEF, ont publié plusieurs fois et dénoncé la mafia qui caractérise certaines institutions du pays et personne ne dit mot. Car ceux qui pillent les caisses de l'État en RDC ont des ramifications à tous les niveaux. Je pense que malgré ces révélations, rien ne se fera.
Ernesto Pararo.
Effectivement, c'est vraiment un constat d'un citoyen qui est déçu par le travail de lutte contre la corruption en RDC.
Il n'est pas le seul, hein. Je vais ajouter cette autre réaction de Moïssa Boussa Esaïe qui nous écrit depuis Béni. Il dit, malgré ces interprétations, cet argent ne sera jamais remis dans le compte du trésor public. Donc c'est une mascarade, c'est nous voiler la face. Il nous écrit depuis Béni, honorable Mboussa Moïssa Esaïe.
Effectivement, c'est, comme je le disais, c'est un constat des citoyens qui sont déçus en rapport avec les efforts que le gouvernement fait pour lutter contre la corruption. Étant donné que, un, lorsque la procédure est déjà bâclée, vous amenez ce type de dossier devant les cours et tribunaux, soyez sûr et certain que les gens seront libérés. Ça, c'est la première des choses, parce que la procédure n'a pas été respectée. Mais lorsque la procédure est respectée, avec des compléments d'informations que la Cour pourrait réunir et envoyer tous les dossiers, comme Maître Guy venait de le dire, envoyer par travers le parquet près la Cour des comptes, l'envoyer devant les juridictions judiciaires, je pense que nous arriverons effectivement aux arrestations et à la récupération des biens. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comme ce que l'honorable l'a dit, nous constatons que certains dirigeants, certaines autorités qui ont le pouvoir, au lieu d'analyser froidement, d'enquêter froidement, d'être calme, de réunir des éléments, ils font les choses pour s'attirer pour amadouer le chef de l'État. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Si je dis que la Cour, depuis qu'ils sont là, nous avions lutté avec l'ODEP pour que les magistrats prêtent serment, afin que la Cour soit vraiment opérationnelle, afin qu'ils arrivent dans les quartiers, dans nos avenues, dans les provinces, qu'ils ne soient pas seulement à Kinshasa. Qu'ils arrivent partout, parce qu'ils ont un pouvoir élargi. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ça fait plus d'une année qu'ils ont prêté serment, ils sont toujours là. Je vous ai seulement donné un seul cas. Ici à Kinshasa, il y a eu des projets zéro trou. C'est ce qui intéresse les citoyens. Les transports, les manger, les soins médicaux, la santé, l'agriculture. Ce sont les secteurs qui intéressent les citoyens. Lorsque on donne l'argent pour acheter des biodis, l'argent est détourné, on ne voit pas les biodis. Ça n'intéresse pas la Cour des comptes. Lorsqu'il y a eu de l'argent qui est injecté pour la gratuité, et aujourd'hui, on a arrêté certaines personnes, mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que l'éducation fonctionne très bien? Il y a des soucis. Lorsqu'on achète des milliers et des milliers de bus transco pour desservir les transports publics à Kinshasa, aujourd'hui, la gestion des transports est catastrophique, ça n'intéresse pas la Cour des comptes. Alors qu'ils ont ce pouvoir-là d'arriver partout où l'État a donné un franc. Mais ils ne le font pas. Et c'est ce qui fait que les citoyens sont déçus. C'est une déception. Ils se disent, écoutez, bon, même si on disait aujourd'hui on a volé ou on a détourné 25 millions, avec ce genre d'autorité, ne vous attendez absolument à rien.
Merci, Ernest. C'est ça le grand problème. Pararo, Gédéon, Elia Lissongi, qui nous suit depuis Kisangani, merci beaucoup. Aaron Moussassa, bonsoir Radio Okapi, je vous suis depuis la ville de Kananga. Précisément à l'hôpital SNCC, prompt rétablissement à vous si vous êtes souffrant, Monsieur Aaron Moussassa, Emmanuel Lukusa, depuis Lubumbashi, merci de nous suivre, Kalenga, tout depuis Kalemi, dans la province du Tanganyika, merci beaucoup, Roméo Mungiangu, depuis Bukavu, vous êtes très très nombreux, chers internautes. Alors, on va prendre ce dernier auditeur, hein, qui nous suit, qui nous appelle plutôt, depuis Kananga, au Kasaï central.
Mais président Mampouya, avocat parti de la ville de Kananga, les accusations ou dénonciations faites par le président de la Cour des comptes sont si graves et ça ne peut pas demeurer impuni. Les auteurs doivent être sanctionnés de manière exemplaire pour décourager ce comportement qui est devenu la règle dans notre pays. Mais malheureusement, la plupart des dossiers relatifs au détournement dans notre pays n'aboutissent pas. Il y a un début de commencement de justice, mais malheureusement, ces dossiers n'ont toujours pas conclu par des décisions judiciaires définitives. Ils sont soit classés sans suite, soit suspendus pour des raisons inconnues. Et c'est cela d'ailleurs qui justifie la recrudescence des cas de détournement dans notre pays. Cette façon de faire doit changer et l'état des droits doit être promis dans notre pays.
Monsieur Passisa Pamba.
Monsieur Mampouya a totalement raison. Lorsque vous observez tout ce qui s'est passé dans notre pays en matière de dénonciation, avec des sommes faramineuses, mais malheureusement, la plupart ou tous les procès n'ont pas donné les résultats escomptés au peuple congolais. Et pour faire un pas en arrière, nous disons que nous avons encouragé la Cour des comptes. C'est vrai, nous reconnaissons le travail abattu par cette Cour des comptes. Mais pour les cas d'espèce, il est vrai que la procédure n'a pas été respectée. Faute du respect de cette procédure, vous allez vous rendre compte que ceux-ci également risquent de jubiler si on les amenait devant les cours et tribunaux dans le non-respect de la procédure. C'est pourquoi nous insistons. Au moment où nous parlons, toutes les institutions de la République sont en train de suivre, y compris la justice. Les parquets également sont en train de suivre. Les dénonciations sont tellement graves que le parquet doit se saisir du dossier. Et tout ce que le peuple congolais peut attendre, il faut quand même un jour que dans ce pays, le peuple congolais se réjouisse à travers une justice qui livre un combat sans merci, surtout contre l'impunité, contre le détournement des deniers publics. Monsieur Mampouya a vraiment raison, et il mérite d'être soutenu dans ce qu'il évoque. Ce que, à la date d'aujourd'hui, que ce soit Pararo, que ce soit l'ODEP, tout comme le réseau des parlementaires, nous avons tous milité pour que l'on puisse prendre l'ordonnance loi par rapport à l'effectivité de ces magistrats de juges de compte. Maintenant qu'ils sont effectifs, il n'est pas trop tard pour mieux refaire. Qu'ils rentrent à l'article 39, qu'ils proposent à l'autorité hiérarchique, ce n'est plus maintenant un secret, parce que tout le monde sait qu'il y a 25 millions que le Trésor doit récupérer. Et donc, que l'autorité de tutelle, ou tout simplement l'hiérarchie, puisse être saisi en bonne et due forme par la Cour des comptes pour que cette autorité hiérarchique ou l'autorité de tutelle puisse permettre à la justice, au parquet, de se saisir du dossier. Ce qui serait très encourageant pour le peuple congolais, c'est de voir une fois cette dénonciation aboutir. Aboutir à quoi? C'est-à-dire qu'on rentre dans la procédure normale, que l'autorité de tutelle se prononce, que le parquet se saisisse du dossier, les fautes de gestion doivent être sanctionnées par celui qui doit sanctionner, mais aussi les fautes pénales, afin que l'État, les trésors publics, recouvrent ces 25 millions et que les intérêts moratoires et tout ce qui s'ensuit puissent être versés dans le compte du trésor pour que le peuple congolais se sentent quand même sécurisés par sa justice.
Merci.
C'est là
C'est ça qui doit être le point focal et le point le plus intéressant. Parce que tout le monde est en train de suivre, et la justice, et la Cour des comptes, et toutes les autres autorités. Je crois que sans sanction, s'il n'y a pas de sanction, si on ne sanctionne pas, les dénonciations ne serviront plus à rien.
Merci. Passy Zapamba, député national, membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale et vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Je rappelle aussi que vous êtes également membre de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup. On va considérer cela comme votre conclusion. Un instant par rond, en 30 secondes, votre mot de la fin.
Effectivement, pour nous, l'ICOCO, nous disons qu'il faudrait respecter la loi, les procédures, ainsi de suite. Parce que lutter contre la corruption, ça demande le respect des textes, le respect des lois. Nous soutenons qu'il y ait, que les dossiers soient transmis devant les cours et tribunaux. Malheureusement, au niveau du judiciaire aussi, les actes de corruption sont nombreux. Il faudrait effectivement que nous nous engageons tous pour suivre les dossiers, à ce que ceux qui sont impliqués dans ces présumés détournements soient effectivement poursuivis devant les cours et tribunaux. Et que la Cour des comptes se réveille, qu'elle soit sur terrain, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, dans nos territoires, dans nos collectivités, pour effectivement promouvoir la gouvernance, promouvoir et lutter contre la corruption. C'est ça notre
objectif. Merci Ernest Pararo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, et aussi point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Maître Guy Kabeya, membre du conseil d'administration de l'ODEP, votre conclusion.
Merci madame. Moi je voulais juste apaiser le compatriote qui disait que nous en tant qu'organe de lutte contre la corruption, nous insurgeons contre une mesure de la Cour des comptes. Non, nous ne sommes pas contre une mesure de lutte contre la corruption. Nous disons que la lutte contre la corruption, comme a dit mon ami Ernest, même honorable, cette lutte doit se faire dans le cadre des normes et des règles. Et le respect des règles crédibilise la lutte. N'est-ce pas? Sinon, on risque de tomber dans le même piège que ceux qui ont commis des cas de corruption. Voilà.
Merci Maître Guy Kabeya, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de ce magazine, Guy Maté, Dona Madimba, Donaton Fonani, Clément Chimanga, Hervé Roca, Willem Lungiamba était à la mise en onde et Dieudonné Nyangasa, présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.